Europe 1. Europe 1.
Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'une histoire de l'économie mondiale chez Talendier, de comprendre les crises économiques avec Christina Pecutti aux Presses universitaires de France. Vous pouvez certainement nous aider à comprendre pourquoi, de nos jours, le patron le mieux payé de France, Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial qui emploie 258 000 personnes et a réalisé 18,6 milliards de bénéfices l'année dernière, un record, gagne moitié moins d'argent qu'un footballeur, même aussi génial que Kylian Mbappé. On sait que les inégalités se creusent, mais à ce point, ça paraît fou. Arrêtons-nous d'abord sur le montant de la rémunération de Carlos Tavares, qui a fait scandale, 36,5 millions pour l'année écoulée, soit 56% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Il est le patron du secteur automobile le mieux payé du monde, 5 fois plus que ce que touchent ses homologues japonais ou allemands. Comment on l'explique ?
Alors, je pense qu'on l'explique par deux éléments. Le premier élément, c'est qu'effectivement, il y a une petite tranche de gens qui ont le revenu a considérablement augmenté. Si on compare à son prédécesseur lointain, qui était à la tête de Peugeot, Jacques Calvé, dans les années 80. Donc, Jacques Calvé avait fait scandale déjà à l'époque pour avoir une rémunération en 1987 de l'équivalent aujourd'hui de 630 000 euros. Donc, ah oui. On est passé de 630 000 euros à 36 millions d'euros. Et donc, on est donc sur une tranche de gens extrêmement réduite qui, par rapport à la période de Calvé, a bénéficié de deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'ouverture de la concurrence parmi les entreprises. C'est-à-dire qu'avant, Jacques Calvé, il était PDG de Peugeot. Tavares, il est PDG d'un groupe dans lequel il y a Chrysler, il y a Fiat, il y a Peugeot, et il est susceptible de les mettre, ce groupe, en concurrence avec, vous parlez des Japonais ou des Allemands, il est susceptible de les mettre en concurrence. Ce que racontait notre Carlos Ghosn, au temps de sa splendeur, c'est qu'il avait le choix entre Renault et General Motors, c'est qu'il avait été appelé directement par Barack Obama, président des États-Unis, pour lui proposer le poste de General Motors. Et quand il était en prison au Japon, il disait, j'ai eu tort de pas accepter parce que j'aurais été encore mieux payé que chez Renault et je me retrouverais pas aujourd'hui en prison. Donc il y a une mise en concurrence par cette petite élite qui est assez réduite, qui est assez peu évoluée en nombre vis-à-vis de l'ensemble du monde des affaires mondialisées. Grosso modo, encore une fois, j'insiste là-dessus, Calvé, il était français, il était chez Peugeot. Tavares, il est mondial et il est dans une entreprise mondialisée. La deuxième remarque que je ferai, c'est que depuis la période de Calvé, il y a eu une expansion considérable de la quantité de monnaie en circulation. Toutes les politiques monétaires ont mis en place énormément de moyens, avec une capacité des banques centrales à contenir la dérive des prix à la consommation. Et donc, elles n'ont pas pu contenir la dérive de ce qu'on appelle le capital. Alors, le capital physique, l'immobilier a explosé un peu partout, le capital humain. Il y a un certain nombre d'endroits où, effectivement, le prix du capital humain a considérablement augmenté et ce sont les endroits où les gens ne sont pas vraiment en concurrence. Encore une fois, Tavares, il va voir les gens et il dit, si vous trouvez l'équivalent, allez-y. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à ses actionnaires. Il n'y a aucun problème. Si vous trouvez quelqu'un qui vous rapporte autant, il n'y a aucun problème. Vous le prenez. Et la réaction immédiate des actionnaires historiques de Peugeot et de Fiat, c'est de dire non. Alors qu'il y a des cris dans la presse, c'est scandaleux, c'est honteux. Les actionnaires historiques qui sont à l'origine de la reconstruction de Stellantis disent non, on garde Carlos Tavares à 36 millions, il n'y a aucun problème.
Oui, et au fond, c'est un salarié comme les autres. Hein. Ça n'est pas un rentier. Il vient au bureau tous les jours, Carlos Tavares, et il est payé. Enfin, chez Stellantis, on applique la règle pay for performance. Quoi. Le record de 2023, 18,6 milliards de bénéfices, ça lui a profité, mais ça a valu aussi aux salariés du groupe une récompense d'1,9 milliard d'euros. Mais bon, comme ils sont très nombreux dans le monde, ça fait à la fin que 80% des salariés en France n'ont touché que 3700 euros net d'intéressement. On est loin des 20 millions d'augmentation de Carlos Tavares.
Oui, la différence qu'il y a entre les salariés de Stellantis et Carlos Tavares, encore une fois, c'est le fait que les salariés de Stellantis, ils sont en concurrence. Et ils sont de plus en plus en concurrence avec des salariés dans le monde entier. Je reviens là aussi à l'époque de Calvé. Les salariés de Peugeot, ils étaient en concurrence avec des salariés de Peugeot en France. Belfort était en concurrence avec Poissy. Là, maintenant, les salariés de Stellantis, il y en a aux États-Unis, il y en a en Asie, il y en a en France, il y en a en Italie, et tous ces gens-là sont en concurrence. Alors que Tavares, Alors, à titre, on peut considérer que c'est une imposture, mais il a réussi à persuader les actionnaires qu'il est unique dans son genre, ou tout au moins qu'il appartient à un club très fermé qui peut à tout instant dire « je m'en vais, je vais ailleurs ».
Mais justement, c'est la question que l'on se pose, c'est est-ce que la performance de Stellantis, qui se classe aujourd'hui 16e au classement des entreprises les plus rentables du monde, hein, est-ce que cette performance est due au PDG ou à ses employés ? Une étude récente portant sur 5000 PDG qui prend en compte l'héritage que celui-ci a trouvé à sa prise de poste quand il est arrivé. Carlos Tavares, c'était pas reluisant hein, à l'époque, ni Peugeot ni Stellantis. Le poids de l'entreprise dans son secteur, etc., etc. On regarde tout et on évalue l'effet PDG à presque 40% de la performance d'une entreprise. Est-ce que ça vous semble plausible ?
Alors c'est assez plausible parce que juste avant Carlos Tavares, donc il y a plusieurs entreprises dans Stellantis. Et mais chez Fiat, par exemple, vous prenez à l'époque là aussi de Jacques Calvé, tout le monde considérait que Fiat était une entreprise en voie de disparition. On disait il y a trop d'entreprises automobiles à la surface de l'Europe et s'il y en a une qui va disparaître, c'est probablement Fiat. Et puis Fiat, ça a fait des réformes. Et avant Tavares, à la tête de Fiat, il y avait quelqu'un qui s'appelait Sergio Marchionne, qui était un personnage assez haut en couleur. Il n'avait jamais de veste, il était toujours avec un chandail. Et donc, ce Sergio Marchionne a redressé Fiat, a eu l'idée d'aller acheter Chrysler. C'est lui qui a eu l'idée de la Fiat 500 renouvelée et remise en service. C'est lui qui a, chez Chrysler, trouvé l'idée qu'il y avait la Jeep dans le patrimoine de Chrysler. Et donc, il fallait réutiliser le mot et l'idée qu'il y a derrière la Jeep. Donc, il a eu un réel impact sur la vie de l'entreprise. Et on le voit bien, Carlos Ghosn était en concurrence à la tête de General Motors avec une dame qui s'appelle Marie Barra. Elle a fait un travail absolument exceptionnel et elle est payée moins que Carlos Tavares, mais elle n'est quand même pas au SMIC. Hein. Et donc, il y a quand même un impact du PDG. Alors après, vous avez tout un tas de théories de management qui disent soit c'est leur talent, soit c'est leur chance. Il y a des gens qui sont là au bon moment. Après tout, Tavares, encore une fois, il a trouvé des choses qui étaient en mauvais état, mais il a trouvé aussi l'héritage de Sergio Marchionne et sa sagesse a peut-être été de ne pas trop toucher à ce qu'avait fait Sergio Marchionne.
Oui, on va maintenant prendre le cas de Kylian Mbappé. Hein. Il est payé au Paris Saint-Germain le double de Carlos Tavares, 72 millions annuels. C'est un footballeur extraordinaire au sommet de son art. Mais comment expliquez-vous qu'il gagne le double d'un grand patron qui peut se vanter d'avoir fait plus de 18 milliards de bénéfices l'année dernière ? Est-ce que là aussi, il y a une explication ? Et surtout, alors avant d'entrer dans l'explication, comment ça se fait que ça choque personne ? Il n'y a pas de polémique, là.
Alors, il n'y a pas de polémique. Ce que je trouve intéressant, j'ai ressorti un texte relativement ancien, puisque c'était un texte de la fin des années 90, qui avait été le renouvellement du programme de la gauche socialiste par Tony Blair, Schröder et tout ça. Et il y avait cette formule, une société juste est une société qui célèbre les mérites des chefs d'entreprise performants au même titre que ceux des artistes ou des footballeurs. Donc déjà à la fin des années 90, la gauche qui se voulait réformatrice disait écoutez, c'est pas normal que les footballeurs gagnent autant. On est toujours dans la même logique, c'est-à-dire que Mbappé, il est unique en son genre. Si vous regardez ce que gagnent les footballeurs de Ligue 1, en moyenne, ils gagnent 1 million par an. Mbappé, il gagne 70 fois plus. C'est parce que, et pourquoi il arrive à ça ? Parce que lui, il peut dire, si je ne reste pas au PSG, je vais
au Real. On s'interrompt, Jean-Marc Daniel, on fait une pause et on y revient tout de suite après.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï.
L'économiste Jean-Marc Daniel est en direct avec nous ce matin. On s'amuse à comparer le salaire de Carlos Tavares de plus de 36 millions d'euros par an avec celui de Kylian Mbappé de 72 millions dans l'année, le double donc. Alors pourquoi celui de Tavares choque et pas celui d'Mbappé ? Peut-être que parce que Kylian Mbappé, il court avec le ballon sur le terrain. Il marque des buts. C'est un travailleur dont le mérite est objectif et même spectaculaire. Il s'agit d'un travail d'équipe, bien sûr, mais d'une équipe réduite dont tous les membres touchent généralement un salaire astronomique. Ça nous paraît moins injuste que Carlos Tavares, qui lui, on se dit, bon bah, en fait, il a 280 000 employés aussi, boss.
Oui, je pense qu'il y a deux éléments qui jouent. Le premier élément, il y a un certain nombre de gens qui gagnent énormément d'argent, mais qu'on ne connaît pas. C'est pour vivre, revivre, cacher. Je rappelle assez souvent que on on voit Barack Obama, on se souvient de Barack Obama, mais on ne réalise pas que Barack Obama réclame 500 000 dollars pour faire une conférence d'une heure et demie, alors que l'exemple historique qu'on met en avant, c'est Truman, qui a été président des États-Unis et juste après Roosevelt, et qui faisait des conférences gratuitement et demandait simplement de ne pas avoir à payer le billet d'avion pour aller à la conférence. Donc, Barack Obama, personne ne sait exactement combien il gagne. Et puis, il y a ceux, quand on le voit, dont on peut considérer effectivement qu'ils sont véritablement à l'origine de leur talent. Donc Mbappé, c'est le cas. Et comme vous le disiez, Tavares, il ne bénéficie en réalité que de l'effort de tous ces gens qui sont derrière lui. Lui, il n'est jamais que... Or, ce que montre l'expérience, c'est quand même que quand il y a un mauvais PDG, l'entreprise est menacée et finit par disparaître. Ce que montrent aussi les indignations, c'est qu'il y a une confusion dans l'esprit entre la vieille idée anticapitaliste, c'est l'exploitation, c'est des profits, c'est... Donc on pourrait appliquer à Elon Musk plutôt qu'à Tavares.
Oui, Tavares, c'est encore une fois un salarié
comme un autre. C'est un salarié comme un autre. C'est quelqu'un qui a fait des études d'ingénieur, il est centralien, il est rentré dans une entreprise, il a montré un talent qui était de la même nature que ce que pouvait montrer Mbappé. On l'a vu à l'œuvre. Et progressivement, il est monté, il est devenu ce qu'il est. Mais il y a dans l'état d'esprit des gens, c'est que c'est forcément un capitaliste, donc il exploite les travailleurs. Donc il y a une illégitimité par référence au capitalisme. Mais ce que je disais avant la pause, c'est que même la gauche modérée de gouvernement dit c'est pas normal, il y a quelque chose qui est quelque chose d'artificiel. Il faut quand même reconnaître le fait qu'un grand chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a du talent, qu'il soit salarié ou qu'il soit entrepreneur et créateur de l'entreprise.
Mais quand on parle de super rémunération comme celle de Kylian Mbappé ou de Carlos Tavares, on invoque en général la mondialisation ou le néolibéralisme. Mais est-ce que ce n'est pas d'abord parce que la façon de produire des richesses a beaucoup changé depuis un demi-siècle ? Il y a 50 ans, Michel Platini gagnait l'équivalent de 3600 euros actuels par mois à l'AS Nancy-Lorraine. C'était avant la publicité dans les stades et sur les maillots, avant que les droits télé du football ne remplissent les caisses des clubs. Il y a 50 ans, les PDG des 500 plus grosses entreprises américaines gagnaient 20 fois le salaire moyen des employés de leur entreprise. Aujourd'hui, c'est 340 fois. Mais c'est lié au cours en bourse de l'entreprise qu'ils dirigent.
Oui, il y a la recherche du cours en bourse, mais derrière le cours en bourse, normalement, effectivement, il y a des épargnants. Alors, on met souvent en avant les fonds de pension. D'ailleurs, avec une confusion, on confond en général fonds d'investissement qui a une vocation à gagner de l'argent relatif court terme. Et puis les fonds de pension, c'est des fonds de retraite. Ça paye les retraites de gens qui sont en général déjà assez modestes. Et donc il y a plutôt une vision de long terme. Donc le fonds de pension, c'est plutôt une vision de long terme. La grande différence avec ce qui se passait dans les années, à la fois les années dites les 30 glorieuses et puis les années du 19e siècle au début du capitalisme, c'est qu'on faisait véritablement fortune à cette époque-là avec deux soutiens. On crée une entreprise et dans un cadre où on était relativement abrité. Donc, celui qui faisait fortune, c'était le créateur d'entreprise, l'entrepreneur, dans un cadre où il y avait assez peu de concurrence. Donc, assez vite, il accumulait, grâce à un processus de ce qu'on appelle des rentes, il accumulait des profits et il faisait fortune. Et puis, il y avait encore, c'est ce que soulignait d'ailleurs en son temps Jean Fourastier, qui était le fondateur de la formule Les 30 Glorieuses, il disait que pendant très longtemps, on a fait fortune grâce à l'État. Il disait on pouvait faire fortune en étant haut fonctionnaire. Et il rappelait dans un de ses livres la formule célèbre de Talleyrand, quand on le nomme ministre des Relations extérieures, il dit « je vais enfin pouvoir faire une immense fortune ». C'est-à-dire que pendant très longtemps, Fourassier parle des conseillers d'État, il dit « un conseiller d'État, c'est quelqu'un qui arrive à faire fortune ». Maintenant, tout ça est fini, les hauts fonctionnaires ne font pas fortune et les entrepreneurs sont soumis en permanence à une pression concurrentielle. La grande différence par rapport à tout ça, c'est la concurrence et le fait que effectivement, les entreprises sont obligées d'arbitrer entre les différents managers qui peuvent leur permettre de se développer parce que si elles n'ont pas un bon manager, la concurrence les détruit. Les actionnaires font des arbitrages entre les entreprises performantes et les entreprises peu performantes. Et donc, le véritable élément qui a modifié tout ça, c'est l'introduction de la concurrence et tout le monde n'est pas égal devant la concurrence. Je parlais de Barack Obama. Il n'y a qu'un seul, enfin il y a les Clinton aussi qui ont fait plus de 200 millions de capital accumulé depuis 2001 par les conférences de Bill Clinton. Il n'y a pas beaucoup de présidents des États-Unis, d'anciens présidents des États-Unis sur le marché. Kylian Mbappé, il n'y en a pas énormément qui marquent autant de buts que lui.
Alors il y en a aussi, il y a Elon Musk. Elon Musk, lui, demande 45 milliards de rémunération pour ses performances à la tête de Tesla. 45 milliards, oui. Hein, pas millions, milliards. Et au début, il voulait 56 milliards, mais ça lui a été refusé par la justice du Delaware en janvier dernier. Là, c'est les actionnaires qui vont devoir trancher pour les 45 milliards. L'action de Tesla a chuté de 63% en bourse depuis 2021, ce qui qui fait 700 milliards de capitalisation volatilisée. Si vous étiez un actionnaire de Tesla, est-ce que vous voteriez 45 milliards de rémunération pour Elon Musk?
Non, je voterais non, et puis je vendrais mes actions assez vite, parce que Elon Musk a une stratégie qui est une stratégie un peu surprenante à certains aspects. Alors, il y a un bluff, il a créé un personnage. Le véritable enjeu, c'est la capacité à valoriser ce personnage. Et donc, je pense que je serai actionnaire de Tesla, je commencerai à me poser des questions sur le côté loufoque de ce qu'il dit par rapport à ce que ça peut rapporter. Je pense qu'une stratégie de loufoquerie, c'est pas forcément idiot, c'est pas forcément absurde. Et des annonces totalement surréalistes dont on sait pertinemment qu'elles n'auront jamais lieu, c'est pas non plus totalement absurde.
Vous voulez dire quand il dit qu'on sera sur Mars
ou dans des éléments très simples, quand il avait lancé l'idée d'un projet de train à très grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco, où on pouvait aller entre les deux villes en une demi-heure. Bon, pourquoi pas? Mais il y a un moment où effectivement on se demande si sa comédie est maîtrisée ou s'il n'y a pas quelque chose en lui qui commence à devenir irresponsable.
Merci Jean-Marc Daniel. Merci pour tous ces éclaircissements. On fait une pause et on retrouve Laurent Alexandre. On va parler d'immortalité.
9h, 10h. C'est arrivé demain sur Europe 1.